Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
6h41, les enjeux internationaux. Mercredi dernier, à la Sorbonne, Emmanuel Macron a formulé ses vœux pour l'Europe entre la guerre en Ukraine à l'Est, la menace d'un retrait américain de l'OTAN en cas d'élection de Donald Trump pour le chef de l'État. L'heure est à la construction d'une défense européenne. C'est un vieux refrain. Va-t-il connaître un air nouveau ? Bonjour Olivier Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes professeur de relations internationales au Centre d'études sur la guerre de l'Université du Sud-Danemark, avec une nouveauté, une nouvelle déclaration d'Emmanuel Macron qui fait beaucoup parler, le fait qu'Emmanuel Macron envisagerait que la défense nucléaire française soit en quelque sorte mise dans un pot commun européen. Votre réaction par rapport à cette proposition qui fait bien entendu beaucoup réagir?
Alors, c'est pas tout à fait ça, parce que en réalité, la dissuasion nucléaire française est toujours basée sur le fait que c'est le président de la République qui a l'autorité finale pour décider ce que sont les intérêts ultimes qui légitimeraient d'engager la dissuasion française. Ce qui a lieu depuis les années 70, c'est en fait depuis Valéry Giscard d'Estaing, c'est que la France a tendance à considérer qu'il y a une dimension européenne des intérêts vitaux français. Donc en soi, il y a une tradition déjà depuis plusieurs présidents de considérer qu'il y a une dimension européenne des intérêts vitaux français. Mais ce que ne fera pas la France, c'est ce que font les États-Unis, par exemple, c'est-à-dire de dire que la dissuasion nucléaire américaine est valable pour tous leurs alliés. La France a toujours considéré que ce qu'on appelle la dissuasion élargie n'était pas quelque chose qui était crédible. C'est pour ça que le général de Gaulle a voulu qu'il y ait une dissuasion nucléaire autonome. Et les alliés européens savent bien aussi, connaissent bien notre doctrine. Donc, il ne va pas s'agir d'une dissuasion élargie comme le font les Américains à l'ensemble des pays de l'OTAN. Et d'ailleurs, les réactions politiques qui ont lieu en disant le président Macron veut partager la dissuasion nucléaire française, c'est faux. Par contre, il y a déjà depuis longtemps dans la doctrine cette dimension européenne des intérêts vitaux français, et ce que propose le président, c'est en fait une discussion beaucoup plus approfondie avec les alliés européens pour une meilleure coordination.
Mais alors, ça veut dire quoi concrètement? Parce que si, par exemple, la Belgique, la Hollande, je ne souhaite bien entendu aucun mal à ces pays, est attaquée, est-ce qu'on ne considérera pas que ces deux pays sont sous le bouclier nucléaire français?
Eh ben, en fait, justement, c'est là toute l'ambiguïté de la dissuasion nucléaire, c'est que normalement, on n'est pas censé le dire. En pratique, oui, j'imagine qu'on considérerait que une menace vitale contre des alliés proches, en pratique, je suppose qu'on considérerait que ça fait partie des intérêts vitaux. En réalité, dans la doctrine, le but est de compliquer le calcul de l'agresseur. Donc, en fait, pour compliquer le calcul, il ne faut pas lui dire quelle est la ligne rouge. Parce qu'en dessous, ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut.
Mais donc, si on a cette dissuasion, pardonnez-moi, je vous interromps, comme vous êtes en duplex, Olivier Schmitt, mais une dissuasion qui ne s'assume pas n'est pas une véritable dissuasion.
Alors, elle s'assume dans le sens où le but est de compliquer le calcul de l'adversaire. Mais c'est en fait toute la doctrine française qui est basée sur cette ambiguïté et qui est très différente de la doctrine nucléaire américaine qui assume le fait que les alliés sont couverts. Et la grosse différence, c'est que les Français n'ont jamais cru que cette dissuasion américaine était crédible. En gros, en disant, on ne pense pas que les Américains vont prendre le risque de sacrifier New York pour défendre Bonn, en quelque sorte. Et c'est ce que nous ne pouvons pas faire, parce que doctrinalement, évidemment, ça serait en complète contradiction avec notre propre doctrine.
Et alors, parce que lorsque j'ai entendu cette discussion, je me suis dit de manière un peu naïve que la France n'allait pas pouvoir, au vu donc des contraintes budgétaires qui s'exercent sur notre pays, n'allait pas pouvoir tout développer. Alors, est-ce qu'il ne serait pas imaginable, par exemple, que la France s'occupe du bouclier nucléaire européen, tandis que d'autres pays, l'Allemagne, enfin, que sais-je, eh bien, par exemple, mettent au pot, en termes financiers, monétaires, pour un bouclier antimissile ou pour des chars du futur ?
Alors, c'est effectivement l'idée classique de partage des compétences et de partage des rôles. Alors, il y a deux difficultés avec cette approche. La première, c'est que pourquoi les alliés européens devraient-ils ultimement faire confiance à la France pour défendre leurs intérêts vitaux et donc ne pas disposer eux-mêmes d'une forme de capacité de dissuasion ? Parce qu'encore une fois, c'est la contradiction de notre doctrine. Si on ne dit pas explicitement qu'on protège les autres comme le font les Américains, au final, ils n'ont pas de raison particulière de nous faire une confiance spécifique. Le deuxième aspect, c'est que la dissuasion nucléaire ne protège pas de tout. Il y a évidemment, il y a tout un ensemble de missions qui sont confiées aux forces armées qui ne relèvent pas de la dissuasion nucléaire. Donc, même si on adoptait cette forme de partage des compétences, la France aurait quand même besoin de financer des forces conventionnelles d'une certaine ampleur.
Voilà, bien sûr, mais dans ces conditions, ça signifierait que tous les pays européens devraient se doter d'une force de dissuasion nucléaire. C'est impossible, évidemment, Olivier Schmitt.
Eh bien, en fait, pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Parce que les Américains ont garanti que ces pays étaient couverts par leur propre dissuasion nucléaire. Et nos alliés européens leur font confiance. Donc, il n'y a pas eu de prolifération nucléaire particulière en Europe parce qu'en fait, il y a eu un effet, j'allais dire, de frein de la dissuasion nucléaire américaine, qui est une dissuasion nucléaire élargie.
Oui, mais alors tout ça, évidemment, pourrait être remis en question avec Donald Trump si celui-ci était élu.
Ah ben c'est le scénario catastrophe. Très franchement, hein, y a une vraie question en termes de potentielle prolifération nucléaire si, dans un scénario maximaliste, les États-Unis décident d'abandonner complètement leurs alliances. Et ça ne se limite pas à l'Europe. Hein. On peut parler de Corée du Sud, on peut parler du Japon. Mais il y a eu un effet de contre-prolifération ou d'anti-prolifération qui a été garanti par la dissuasion nucléaire élargie américaine, dont on se pose des questions. Si, encore une fois, c'est un scénario complètement maximaliste, si les États-Unis abandonnent leurs alliances.
Et alors, dans ces conditions, qu'est-ce que l'on peut imaginer ? Parce que là, ça signifierait qu'un certain nombre de pays, en fait, quasiment tous les pays européens, sauf la France, seraient sans dissuasion nucléaire.
Alors moi, ce que j'imagine, c'est qu'il y aurait une course au mieux-disant entre pays européens pour établir des relations bilatérales fortes avec les États-Unis. On commence déjà un petit peu à le voir avec certains pays qui se sont approchés de la campagne de Donald Trump. Le risque majeur en réalité pour une coordination de défense européenne, c'est que les Européens ne développent pas de politique collective, mais fassent une course à l'échalote pour savoir qui sera le plus proche des États-Unis, parce que les États-Unis restent la principale puissance militaire mondiale et donc tenteront de forger des accords bilatéraux au cas par cas, qui iront dans leurs intérêts.
Contre des tirs nucléaires, est-ce qu'un bouclier antimissile pourrait être d'une quelconque utilité ?
Alors, ça complique ce qu'on appelle le ciblage de la part de l'assaillant, mais la réalité, c'est que un bouclier antimissile aujourd'hui, aucun n'est capable d'intercepter une frappe nucléaire massive. Il n'y a pas de possibilité d'interception d'une attaque nucléaire massive par un bouclier antimissile aujourd'hui.
Et alors, ce bouclier antimissile européen, s'il était déployé, il servirait à quoi dans ces conditions ?
Alors en fait, c'est que les missiles, ils sont pas forcément toujours équipés d'armes nucléaires, comme les Ukrainiens malheureusement le voient tous les jours.
Ça bien sûr, mais dans l'hypothèse justement d'un conflit entre deux pays dont l'un n'est pas une puissance dotée.
Oui, exactement. Mais parce qu'il y a un vrai enjeu de prolifération des missiles, y compris conventionnels, aujourd'hui partout dans le monde. Probablement le principal développement militaire de ces 20-25 dernières années, c'est que de plus en plus de monde a des missiles de moyenne et surtout de longue portée. Et donc, en réalité, il y a une vraie menace qui s'exerce sur les territoires européens sans qu'elle soit forcément nucléaire.
Et enfin, donc la question des chars communs, est-ce que ça aussi, c'est une question d'actualité véritablement ?
Alors, quand on dit commun, c'est en général des programmes qui comprennent un petit nombre de pays. On voit aujourd'hui les accords franco-allemands autour du MGCS, donc Main Ground Combat System, en bon français et en bon allemand. L'enjeu des coopérations de défense européenne, c'est qu'il faut être capable de produire des armements qui coûtent toujours plus cher, à un coût moins important et qui permet la coopération. La coopération permet de réduire les coûts, mais la coopération complexifie le système d'armes parce que les différents États ont souvent des besoins qui sont légèrement différents. Donc en fait, il y a ce trilemme du prix croissant des systèmes d'armes, du besoin de baisser les coûts et du besoin de faire coordonner les besoins militaires eux-mêmes qui sont très difficiles à résoudre. Et on le voit avec le MGCS où il y a eu un certain nombre de difficultés politiques à arriver à un accord, même si un accord a été signé la semaine dernière.
Merci Olivier Schmitt. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales au Centre d'études sur la guerre de l'Université du Sud Danemark. On vous doit notamment « Préparer la guerre, stratégie, innovation et puissance militaire à l'époque contemporaine ». C'est un livre publié aux presses universitaires de France. Dans quelques instants, vous en saurez plus sur Pluton grâce à Alexandra Delbo qui sera en direct de Pluton.